Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 10 Aban 1401 du calendrier iranien, 1er novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. La République islamique d'Iran a imposé des sanctions à un certain nombre d'individus et d'entités américains. L'Iran a imposé des sanctions à un certain nombre d'individus et d'entités américains. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, en visite à Téhéran. Plus de 50 missiles de croisière tirés par l'armée russe, selon Kiev. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a imposé des sanctions à un certain nombre d'individus et d'entités américains pour des infractions telles que des violations des droits de l'homme et le soutien au terrorisme. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils avaient également été sanctionnés pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, avoir incité à la violence et aux émeutes dans le pays et avoir mené un terrorisme économique contre la nation iranienne. 10 individus et 4 entités américains sont sur la liste noire. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian est en Iran pour une visite officielle dont le but est d'élargir les relations bilatérales. Pachinian a reçu un accueil officiel du président iranien Ebrahim Raisi lors de la cérémonie de bienvenue au complexe Saadabad, les hymnes nationaux des deux pays ont retenti. Les deux hommes ont ensuite passé en revue la garde d'honneur. Pachinian et Raisi doivent tenir une réunion pour discuter des relations entre Téhéran et Erevan. Ils prévoient de signer plusieurs accords de coopération bilatérale. La visite de Pachinian fait suite à un récent déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, en Arménie. Au cours de sa visite d'octobre à Erevan, Amir Abdollahian a inauguré un consulat général de l'Iran à Kapan, la ville la plus au sud de l'Arménie, près de la frontière iranienne. L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies affirme que la réunion informelle que les États-Unis prévoient d'organiser au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur les récentes émeutes en Iran est une démarche dangereuse. l'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, a déclaré que les États-Unis n'étaient pas habilités à le faire et n'étaient pas légalement, moralement et politiquement dignes pour organiser une telle réunion. La réunion informelle est proposée conjointement par les États-Unis et l'Albanie, qui ont donné tous deux refuge aux terroristes et aux groupes radicaux actifs sur leur sol contre la République islamique d'Iran. Le diplomate a ajouté que la réunion serait une tentative hypocrite et trompeuse d'abuser des droits de l'homme comme un levier de pression contre la République islamique d'Iran. Trois nouveaux cargos chargés de céréales ont quitté les ports d'Ukraine mardi matin et se dirigent vers le corridor humanitaire en mer Noire, a annoncé à la mi-journée le Centre de coordination conjoint à Istanbul. Les mouvements de ces trois bateaux ont été approuvés par les délégations ukrainiennes, turques et onusiennes. La délégation de Russie en a été informée, a précisé le centre, qui supervise à Istanbul les exportations de céréales ukrainiennes en vertu de l'accord international signé en juillet dernier. La Russie, qui a annoncé vendredi qu'elle suspendait sa participation à l'accord, a mis en garde lundi contre le danger de continuer la navigation le long du corridor sans son accord. Moscou, qui a dénoncé une frappe de drone en Crimée, exige que l'Ukraine garantisse la sécurité dans le couloir maritime. La Turquie et les Nations Unies s'efforcent de lever les objections russes. Le coordinateur de l'ONU pour l'initiative sur les céréales en mer Noire, Amir Abdullah, poursuit ses discussions avec les États concernés afin qu'ils reprennent leur pleine participation, indique le centre. La délégation russe avait annoncé samedi qu'elle ne participerait plus aux inspections des navires. Le centre précise que malgré le retrait des inspecteurs russes, 46 bateaux ont pu être inspectés lundi et peuvent être autorisés à emprunter dans les deux sens le corridor en mer Noire. Les ministres turcs de la Défense, Hulusi Akar, et des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, se sont entretenus avec leurs homologues russes pour leur faire valoir l'importance du corridor en mer Noire pour le transport des céréales. L'accord international qui arrive à échéance le 19 novembre, visait à permettre la reprise des exportations ukrainiennes pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique. Israël a approuvé la construction de 135 nouveaux logements de colons dans une zone très controversée de l'est de Qots. La nouvelle construction aura lieu dans le quartier de Sheikh Jarrah. Le régime israélien a mené une forte répression contre les familles palestiniennes locales, protestant contre leur impulsion de leur maison. Une flambée de tension dans le quartier a déclenché des affrontements meurtriers à Qots en 2021. La violence a déclenché des tensions qui ont conduit à une guerre en mai 2022 entre le régime israélien et les groupes de résistance dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a à maintes reprises condamné la construction de colonies illégales par Israël et a appelé à la fin de la politique expansionniste de Tel Aviv. Toutes les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés sont illégales au regard du droit international. La Corée du Nord a réclamé lundi l'arrêt des manœuvres militaires à grande échelle menées par les États-Unis et la Corée du Sud, dans lesquels Pyongyang dit voir une provocation susceptible de l'obliger à prendre des mesures de suivi plus fortes. La situation dans la péninsule de Corée et dans la région est de nouveau entrée dans une phase de confrontation grave de pouvoir pour le pouvoir en raison des mouvements militaires incessants et brutaux des États-Unis et de la Corée du Sud, a déclaré le ministre des Affaires étrangères nord-coréen dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle nord-coréenne. Et enfin, l'explosion de deux voitures piégées samedi devant le ministère somalien de l'Éducation à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a fait au moins 120 morts, a annoncé lundi le ministre de la Santé. Le groupe armé extrémiste des Chebab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué cet attentat le plus meurtrier commis en Somalie depuis l'explosion d'un camion piégé au même endroit il y a 5 ans, qui avait fait plus de 500 morts. Le ministère de la Santé a déclaré que le bilan atteignait 120 morts et que 150 personnes restaient hospitalisées. La République islamique d'Iran a imposé des sanctions à un certain nombre d'individus et d'entités américains pour des infractions telles que des violations des droits de l'homme et le soutien au terrorisme. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils avaient également été sanctionnés pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, avoir incité à la violence et aux émeutes dans le pays et avoir mené un terrorisme économique contre la nation iranienne. 10 individus et 4 entités américaines sont sur la liste noire. Ils comprennent le commandement du CENTCOM, commandement central des forces armées américaines, le sous-secrétaire américain au Trésor, la CIA et la Garde nationale américaine. Au cours des dernières semaines, les États-Unis et leurs alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions à la République islamique d'Iran pour ce qu'il appelle une répression des manifestations antigouvernementales. Le mois dernier, l'administration américaine et ses alliés européens ont pris, dans un geste interventionniste, des mesures restrictives contre des personnalités et des entités iraniennes pour ce qu'ils appellent répression brutale des manifestations en Iran, qui ont suivi la mort d'une jeune iranienne, Mahsa Amini, lors de sa garde à vue dans un poste de police à Téhéran. La République islamique d'Iran rejette l'allégation, affirmant qu'il s'agit d'émeutes soutenues par l'étranger. Le ministère iranien du renseignement estime que les États-Unis et le Royaume-Uni sont directement impliqués dans les récentes émeutes en Iran, ajoutant que des dizaines de terroristes affiliés au régime sioniste et au groupe contre-révolutionnaire ont été arrêtés et emprisonnés. Le ministère iranien du renseignement et l'organisation du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique ont publié vendredi une déclaration conjointe soulignant le rôle majeur des agences de renseignement étrangères, en particulier la CIA dans l'orchestration de violentes émeutes en Iran. Dans un rapport publié fin octobre, le ministère iranien du renseignement pointe du doigt les régimes occidentaux et leurs médias qui soutiennent les émeutes et ont diffusé des informations erronées au sujet de la mort de la jeune iranienne avant même l'annonce de l'enquête officielle établie par les autorités iraniennes.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans ce débat, il sera question d'Israël qui a signé un accord maritime avec Beyrouth de peur de nouveaux conflits avec la résistance. Alors, l'extradition du gaz, du champ gazier de Karish dans le... bien sûr, dans le parti de la Méditerranée orientale, était en jeu, bien sûr, et c'est extrêmement vital pour la survie d'Israël. Alors, il sera également question dans ce débat de la démarcation de la frontière maritime avec Israël, justement depuis qu'on a trouvé du gaz et du pétrole dans la côte sud du Liban. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Lors d'une allocution du samedi soir 29 octobre, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a attribué la récente signature par le régime israélien d'un accord maritime avec Beyrouth à la crainte de Tel Aviv de s'engager dans un autre conflit avec la résistance. La résistance libanaise avait menacé de ne pas autoriser l'extraction de gaz du champ de gaz naturel contesté de Karish en Méditerranée orientale avant la conclusion d'un accord qui répondrait aux exigences de Beyrouth, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. En allusion aux funérailles grandioses organisées samedi des victimes de l'attentat terroriste de Shiraz dans le sud-ouest iranien qui a eu lieu le 26 octobre, il a affirmé « Les manifestations de masse qui ont été organisées dans différentes villes iraniennes étaient un message fort à tous les conspirateurs. Ils parient sur un mirage car la présence massive aux funérailles est un coup de poing aux planificateurs du conflit. La présence des Iraniens dans les rues de différentes villes était un signe de leur soutien à l'ordre islamique et cela a déçu tous ceux qui veulent du mal à l'Iran. Le résultat des pourparlers indirects sur la démarcation de la frontière maritime avec Israël sont une victoire historique pour le Liban. La résistance ne se mêlera pas de cette affaire. Le Liban devrait également tracer sa frontière sud avec Israël, a-t-il assuré. Les frontières terrestres entre la Palestine et le Liban ont été démarquées sous mandat français et britannique, mais les frontières maritimes n'ont pas été délimitées. Après la découverte du pétrole et du gaz sur la côte sud du Liban, la démarcation des frontières maritimes revêtait une grande importance, a expliqué Nasrallah. À la lumière de la démarcation des frontières maritimes, le Liban désigne les blocs gaziers et pétroliers. Les eaux territoriales font partie du pays et l'État libanais a pleine souveraineté sur ses eaux et bénéficie de ses ressources, a-t-il poursuivi. La résistance était au courant des négociations sur la démarcation des frontières. Elle a pris une position décisive en référence au communiqué publié par le président Michel Aoun, le premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement Nabih Berri qui considéraient le début de l'extraction du gaz comme une agression contre le Liban. La résistance avait menacé de ne pas autoriser l'extraction de gaz du champ de gaz naturel contesté de Karish en Méditerranée orientale avant la conclusion d'un accord qui répondrait aux exigences de Beyrouth, a-t-il dit.
Alors voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par mission Arnaud Develet, depuis Moscou. Vous êtes juriste et expert des questions internationales. Monsieur Develet, bonjour.
Oui, bonjour à vous, mais bonjour à toute l'équipe.
Et un grand bonjour à monsieur André Chamy, également juriste international, qui est avec nous depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous, ainsi qu'à mon confrère, Maître Develet.
C'est un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous parlons bien sûr de cette démarcation de la frontière maritime. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Arnaud Develet. Alors, Israël a enfin décidé de signer un accord plutôt que confronter la résistance concernant donc ce champ gazier de Karish. Que pensez-vous?
Visiblement, c'est un accord qui, bon gré mal gré, arrange tout le monde, hein, quelque part. L'alternative, comme on a pu le voir, et le secrétaire général du Hezbollah a été assez clair sur le sujet, était visiblement une explosion de violence qui n'aurait arrangé personne. Donc on peut penser que sur un plan tactique, c'était la meilleure solution. De plus, avec la fin du mandat du président Aoun, marqué ces deux dernières années par non seulement l'explosion du port à Beyrouth, mais aussi la crise économique terrible qui frappe le pays depuis l'effondrement du système financier en octobre 2019, permet à ce dernier de, quelque part, partir, si je puis dire, avec la tête haute. Maintenant, il faut raison garder. Cet accord, en ce qui concerne le Liban en tout cas, n'aura pas vocation à fournir des revenus dans l'immédiat. Les experts en matière d'exploitation laissent entendre que, pour ce qui est par exemple du site de Cana, il n'y a pas eu encore de confirmation qu'il existerait des ressources gazières. Donc, ça permettra d'explorer et de voir si ces réserves existent. Mais en toute cause, les estimations quant à pouvoir bénéficier d'un revenu qui, on l'espère, servira les intérêts légitimes du peuple libanais et ne finira pas dans les poches de quelques politiciens corrompus, n'est pas estimé avant 5 ans. Donc, entre-temps, quelque part, il va falloir donner des gages que cet accord n'est pas en soi un coup d'épée dans l'eau. Et c'est avec le vide politique qui s'annonce maintenant avec la vacance du pouvoir à Bagdad, on peut penser qu'il va y avoir une exploitation de cet état de fait. Les gens sont impatients, mais en l'état de cause, politiquement, c'était la meilleure chose à faire et on a pu voir la synergie entre la présidence et la résistance pour les intérêts du peuple libanais, primé avant tout.
Oui, tout à fait. Merci, M. Arnaud Develet. À présent, je m'adresse à M. André Chamy. Alors, M. André Chamy, nous avons écouté les propos de M. Arnaud Develet, qu'il a plutôt donné raison à Israël de conclure cet accord et d'exploiter donc le champ gazier de Karish et peut-être d'autres champs découverts récemment. Que pensez-vous?
Moi, je pense que la question est beaucoup plus importante que ce qui a été dit par mon confrère, parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si il y a eu accord ou pas. D'ailleurs, même le terme d'accord ne me semble pas être adapté à la situation, parce que pour un accord, il faut deux signatures sur le même document. Or, il n'y a pas deux signatures sur le même document. Chacun a signé de son côté et l'intermédiaire américain se porte garant de la signature de l'un et de l'autre. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'accord à proprement parler, si ce n'est par l'entremise de l'intermédiaire américain. Ça, c'est une première. C'est-à-dire, il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de reconnaissance du côté du Liban à l'égard de l'État, de l'entité sioniste. Ça, c'est une première. C'est-à-dire, sur la forme, il y a quelque chose de fondamental à remarquer à travers, je dirais, ce protocole tripartite. Mais en tout cas, encore une fois, par l'intermédiaire des Américains. Et le secrétaire général du Hezbollah l'a rappelé et a insisté sur ce point-là. parce que le fait de se retrouver dans le même accord, c'est constituerait pour le Libanais comme une sorte de reconnaissance de l'existence de l'entité sioniste, et cela est prohibé par la loi au Liban, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas d'accord de reconnaissance et de normalisation entre les deux pays. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, ce protocole constituerait indiscutablement le summum de la reconnaissance de l'équilibre de terreur ou de l'équilibre de force des deux côtés. Parce que aujourd'hui, si l'entité sioniste a accepté de concéder les droits à la République libanaise, ou en tout cas au peuple libanais, et au Liban en particulier, c'est par peur de la riposte qui attendait cette entité et l'ensemble de ses installations, et c'est cette crainte-là qui a justifié cet accord. Je mets le mot « accord » entre guillemets, et cela a été reconnu par l'ensemble de la classe politique et militaire dans l'entité sioniste, mais également par l'intermédiaire américain qui disait que c'est la crainte de la guerre qui a justifié l'intervention de ce protocole. Par conséquent, aujourd'hui, le rapport de terreur, si j'ose dire, réciproque, ou la reconnaissance de l'équilibre de force est reconnue par la nature même de ce protocole. Ça, c'est la deuxième observation, parce que une partie des Libanais ne voulait pas le reconnaître, parce que jusqu'à maintenant, chacun disait « mais de toute façon, il n'y aura jamais d'accord, de toute façon, les Israéliens peuvent toujours renverser la table ». Aujourd'hui, au contraire, les Israéliens eux-mêmes, que ce soit militaires ou politiques, reconnaissent la force du Liban à travers la résistance. C'est une leçon à donner à la classe politique libanaise qui était défaillante, mais également aux pays arabes qui normalisent à tout bout de champ avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, il y a une démonstration que c'est uniquement la force qui peut primer avec l'entité sioniste. La troisième observation, c'est non seulement la concession des droits, mais également la concession sur l'exploitation, c'est-à-dire je ne concède pas la possibilité au peuple libanais, non seulement ses droits sur son territoire ou sur les champs qui lui sont reconnus sur son territoire maritime, mais également sur ce qu'on appelle les champs qui constituent son espace économique, mais surtout son exploitation, parce qu'ils auraient pu dire « bah écoutez, vous avez le droit sur cette partie-là et vous débrouillerez avec ». Non, c'est une reconnaissance de l'exploitation et l'exploitation immédiate pour que les Israéliens ne commencent pas à exploiter en laissant, entre guillemets, en plan l'exploitation libanaise, et en tout cas laissant les Libanais à leur sort. Là, maintenant, il y a une reconnaissance de l'exploitation avec une garantie internationale du démarrage de l'exploitation immédiate, avec la garantie et des Français et des Américains, c'est-à-dire les entreprises qui viendraient exploiter et explorer n'auraient pas à subir les sanctions américaines, parce que c'est toujours les sanctions américaines qui effraient en quelque sorte les éventuels investisseurs sur le champ. Et troisièmement, c'est un appel entre guillemets à la société totale qui s'est dégonflée, je ne veux pas dire autrement, du bloc 4 qui était un bloc sécurisé et non contesté. Là, aujourd'hui, la société totale devrait donc revenir et exploiter. Et si la société totale ne revenait pas et n'exploitait pas, là, ça mettrait en cause d'abord le protocole lui-même, mais derrière, la crédibilité de cette société-là, parce qu'il faut qu'elle justifie le pourquoi de son refus d'explorer, si ce n'est pour constituer en quelque sorte, après avoir représenter un accord avec les organisations terroristes dans certains endroits et même avec des régimes corrompus dans certains endroits, là aujourd'hui elle constituerait un accord
tout à fait.
En quelque sorte une alliance avec l'entité sioniste contre le peuple libanais, et cela est totalement inacceptable. Et le Saïd Hassan Nasrallah l'a rappelé hier, que nous verrons si l'exploitation ne démarrait pas chez nous et démarre chez les Israéliens, évidemment, nous prendrons les dispositions nécessaires pour y faire face.
Oui, j'aimerais beaucoup tout à l'heure parler de ces dispositions dont la résistance va donc prendre. Monsieur Arnaud de Vollet, la force prime sur l'entité sioniste, selon monsieur André Chamy. Est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, effectivement, c'est la dissuasion qui doit s'imposer quand on est en présence, effectivement, de l'entité sioniste. Et la résistance l'a toujours compris. Et c'est pour ça que, quelque part, toutes les tensions dont on a pu être témoin durant l'été, avec le survol des installations, alors même que les Israéliens annonçaient qu'ils allaient commencer l'exploitation aux environs du mois de, je crois que c'était fin août ou fin septembre, lorsque les drones ont commencé à voler, effectivement, le message était clair. Et ça envoie un message à travers toute la région qu'il n'est pas question de normaliser et de concéder les droits les plus fondamentaux qui concernent les peuples des pays arabes qui seraient tentés de le faire, pour peu qu'on ait les moyens de pouvoir traiter d'égal à égal avec les Israéliens. Et c'est en cela, effectivement, une leçon à garder à l'esprit. Maintenant, la route est encore longue. Le Liban, en ce qui le concerne, a cette particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, de puissances, d'influences étrangères qui essayent de contrôler plus ou moins la destinée du pays, et que ce n'est qu'un jalon, un jalon important, certes, qui permettra, comme l'a souligné Maître Chamy, une exploitation immédiate, mais on peut encore s'attendre à des surprises et pourra rester vigilant, d'autant plus qu'encore une fois, que maintenant, avec le calendrier de l'élection présidentielle, je pense qu'on est en droit maintenant de se demander qui va être choisi pour représenter le Liban. Et il semblerait déjà que les rumeurs d'une candidature du chef d'état-major soient mises en avant, lequel est soutenu par les forces libanaises et partant de là, donc l'Arabie Saoudite, ce qui mettrait à mal, quelque part, cette orientation générale évoquée il y a déjà un an et demi par le secrétaire général du Hezbollah sur une réorientation vers l'Est. Donc la question qui va se poser, est-ce que le Liban va rester dans l'influence atlantiste occidentale, ou est-ce qu'ils vont pouvoir diversifier leurs relations bilatérales avec l'Eurasie? C'est, je pense, en toile de mire un peu la question qui se pose.
Oui. Maître Chamy, est-ce qu'on peut parler d'une victoire historique pour le Liban? Est-ce qu'on peut le faire?
Ah, c'est incontestable. Ce n'est pas simplement une victoire historique, mais également une démonstration de ce que la résistance a été capable de faire en temps de guerre, mais également en temps de paix. C'est-à-dire, là, on n'était pas en situation de crise particulière avec l'entité sioniste, mais la situation de crise, pour des raisons économiques, a justifié l'usage, en tout cas la menace, d'avoir recours à la force. Et là, c'est la démonstration, effectivement, que la résistance protège et même assure la place de l'État libanais en termes de soutien, parce que comme l'État libanais est privé par les pressions américaines et par une décision impérialiste de tous les moyens pour se défendre, et ce depuis pratiquement sa naissance, aujourd'hui la résistance a démontré qu'il est en quelque sorte le point d'appui, pour ne pas dire le centre de gravité, de la force du Liban dans le cadre de la confrontation qu'il qualifie de régionale, voire internationale. C'est-à-dire sur le plan international, dans la guerre Ukraine-Russie, aujourd'hui, il a rappelé que c'était l'opportunité pour en profiter. Il a su en tirer profit. Il y avait également les pressions à l'intérieur du territoire palestinien. Il a su en tirer profit pour justement mettre la pression sur l'entité sioniste, parce que l'entité sioniste sait qu'elle ne peut pas mener une guerre à l'intérieur, une guerre à l'extérieur, et une guerre qui peut être généralisée. C'est ce qui a été rappelé également par le secrétaire général du Hezbollah, mais également les conditions économiques qui règne actuellement, c'est-à-dire les prix de pétrole qui flambent, l'inflation mondiale qui explose, mais également le besoin de l'ensemble du marché européen à travers la Méditerranée pour s'approvisionner en gaz et en pétrole, et bien également c'était une nouvelle opportunité. Et c'est l'intelligence de la résistance d'avoir su réunir ses forces et d'avoir pu tirer profit de cette circonstance. Il y a une habileté politique indiscutable, bien précise, et j'ai envie de dire, le coup politique qui a été mené avec un appui militaire a été aussi fort que moi, ce qui me frapperait, c'est plutôt la frappe qui a été menée contre le navire israélien en pleine guerre de 2006. C'était le point d'orgue, si je veux dire, de cette guerre et qui a montré la défaillance de l'entité sioniste avec l'échec militaire qui en a découlé. Et là, aujourd'hui, vous avez un coup qui a frappé au cœur de l'entité sioniste, c'est-à-dire la déstabilisation de l'appareil politique et la démonstration de son incapacité de mener une guerre contre le Liban, en tout cas une guerre contre la résistance libanaise dans de telles conditions. Et c'est cette peur-là, je le répète, c'est cette peur-là qui a fini par avoir raison de l'entité sioniste, et bien entendu l'obliger à accepter les exigences de l'État libanais et du Liban sur ses droits pétroliers et gaziers.
Tout à fait. Maître Develay, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Chami quand il parle d'une victoire historique pour le Liban? Est-ce que cette victoire va suivre d'autres victoires?
Mais écoutez, il faudra rester pour observer la situation de très près. Et moi, je pense que, pour rester prudent, je pense que les termes de l'accord si je puis dire, permettent effectivement de mettre en avant l'équation, la dissuasion qui était mise en avant par la résistance, c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il faut que ça se traduise assez rapidement sur un plan financier, sinon ça sera un coup d'épée dans l'eau, encore une fois. Et je pense surtout que sur un plan régional, l'entité sioniste s'en tire très bien, puisque ça leur permettra, si je puis dire, à l'aune de l'opération de révolution de couleur à l'encontre de la République islamique d'Iran, et pour l'instant en tout cas la mise au réfrigérateur d'une quelconque réactivation de l'accord sur le nucléaire, de remplacer par la force des choses les parts de marché qui ont été générées par les sanctions contre la Russie, et de quelque part devenir un exportateur, c'est une victoire nette pour les sionistes. Et l'Iran n'en profitera pas parce qu'en parallèle, on a eu toute une opération de déstabilisation et de diabolisation de l'Iran qui fait que pour l'instant, tout retour à l'accord est complètement inconcevable. Et donc la levée des sanctions qui aura permis à l'Iran de, si je peux dire, remplir le vide laissé par les sanctions anti-russes, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour, malheureusement. Donc, ça reste à voir pour l'instant. Je suis assez réservé sur les effets long terme de cet accord. Je pense que c'est une bonne chose dans l'immédiat, mais c'est comme un essai à transformer, si je puis dire. Il faut transformer l'essai maintenant.
Absolument. Maître Chami, est-ce que vous croyez qu'il faut s'attendre à d'autres victoires comme celle-là pour le Liban?
Moi, je pense que Maître Develay n'a pas bien écouté le discours de Saïd Hassan Nasrallah, lequel, dans ses termes, a envisagé la possibilité qu'on essaye de tromper, si j'ose dire, la volonté des Libanais et de la résistance. Et il a rappelé qu'il y aura une réaction à ce moment-là, c'est-à-dire l'accord s'appliquera et s'appliquera coûte que coûte. Quant au rapport qui a été indiqué entre ce qui se passe là et le nucléaire iranien, c'est un rapport inexistant, c'est-à-dire c'est un lien qui a été utilisé par l'entité sioniste et par les Américains, alors que normalement il n'y a aucun lien, et ça a été rappelé. Ce sont deux causes totalement différentes, et je précise au passage que pour la République islamique d'Iran, une victoire pour la résistance est une victoire pour la République islamique d'Iran, laquelle a toujours voulu scinder son rôle régional de ces questions de souveraineté nationale, et notamment par rapport au nucléaire. Et pour ce qui concerne la question économique, aujourd'hui, il me semble que le chiffre d'exportation de pétrole iranien sont en augmentation, c'est-à-dire il n'y a pas de carence sur ce point-là. Au contraire, il faut regarder le futur, parce qu'en matière de réserves pétrolières et gazières, il faut toujours regarder le long terme, parce que nous sommes devant des produits qui sont volatiles. Et par conséquent, il ne faut pas regarder la possibilité pour l'entité sioniste de vendre maintenant. Il faut voir combien de temps il va pouvoir vendre. Les prévisions disent que dans moins de 10 ans, vraisemblablement, c'est l'entité sioniste qui va devoir, au contraire, importer du gaz. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont en train de vider leurs réserves. Et dans 10 ou 15 ans, allez, 20 ans, c'est eux qui seront obligés d'en racheter. Et c'est là que se trouve le rapport, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parier sur demain ou après-demain, il faut regarder sur le plan stratégique, sur le plan stratégique. Au contraire, moins on vend maintenant, mieux on se porte plus tard parce qu'il y a une augmentation des réserves dans certains pays, il y a une diminution des réserves dans certains pays. Et je préciserai par exemple, les réserves saoudiennes sont moins que ce qu'on pense et s'ils vendent en quantité, je prends ça comme exemple, et c'est valable pour les États-Unis, s'ils vendent en quantité, mais ça ne veut pas dire que dans les 20 ou 30 prochaines années, ça va être les mêmes quantités ou ils auraient les mêmes
Absolument.
Capacités de production. Voilà.
Absolument. Alors bien, Maître André Chamy, merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Monsieur Maître Arnaud Devollet depuis Moscou d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Dans les émissions précédentes, nous nous sommes familiarisés avec les activités de plusieurs entreprises fondées sur le savoir en Iran. Dans cette émission, nous présenterons la société de conception et de traitement Qadir. La société de conception et de traitement Qadir a commencé son activité en 2004. La conception et la production des systèmes de présence, divers systèmes de contrôle de la circulation et des systèmes de sécurité font partie des activités de production de cette société. En faisant appel aux professionnels talentueux et créatifs de tout l'Iran, différentes équipes de recherche et de développement et groupes de travail ont été formés dans les domaines des logiciels et du matériel. Et après avoir évalué les besoins des différents groupes de clients, les produits ont été placés dans la phase de production. Dès les premières années, les premiers produits de conception et de traitement de la société Qadir sont entrés sur le marché. Il convient de mentionner que la société a obtenu sa licence de fabrication en 2017. Avec plus de 35 ans d'expérience, Qadir est l'une des sociétés pionnières dans l'optimisation des performances de gestion d'entreprise. Au cours de ses années d'activité, elle a établi des échanges efficaces et fructueux avec des organisations publiques et privées. Tout en établissant des relations solides avec des marques de renommée mondiale telles que Suprema, SMITech et Pointe aux Mains de la Corée du Sud, Timi de la Chine, Actuel de la Turquie, et en obtenant une représentation officielle de leur part, a commencé à former un réseau de représentants commerciaux et de services après-vente dans tout l'Iran afin de fournir des produits modernes en fonction des besoins. La société de conception et de traitement Qadir propose des matériels et logiciels utilisés pour gérer la présence des ressources humaines dans les organisations publiques et privées. Aujourd'hui, dans toutes les organisations, le système de présence du personnel est reconnu comme l'un des outils de gestion les plus importants et les entreprises cherchant à optimiser la présence de leur personnel. Cette société, avec plus de 35 ans d'expérience dans la conception et la fabrication des systèmes et logiciels de temps et de présence de marques mondialement connues, ainsi que la conception et le développement du logiciel de présence Atlas sous Windows, Web et applications, ou encore la conception et développement de l'application de présence en ligne TimeZ et bien d'autres, a réussi à représenter ses capacités de production en tant que société basée sur le savoir. Qadir fournit par ailleurs des produits de contrôle du trafic et de la sécurité des organisations. La gestion et le contrôle du trafic est une solution fondamentale et nécessaire pour créer la sécurité et la protection des lieux tels que des instituts de recherche, des centres de données, des lieux protégés des usines, des zones résidentielles, des bureaux, des chantiers de construction et de conception de routes, des hôpitaux, des écoles et des banques, ou le contrôle du trafic physique ou des informations provenant de personnes non autorisées est plus que nécessaire. En plus de fournir des conseils spécialisés aux clients pour créer un système de sécurité intégré, ce groupe de production fabrique des systèmes de contrôle du trafic, des barrières de circulation, des serrures intelligentes, un système de gestion des clients, un système de gestion des coffres forts, etc. Le groupe Qadir est par ailleurs un fournisseur de produits matériels et logiciels pour l'authentification, l'identification biométrique et de l'intelligence artificielle. Avec plus d'une décennie d'expérience dans la fourniture de systèmes d'authentification biométrique en Iran, la société de conception et de traitement Qadir a procédé à un investissement exclusif dans le but de faire correspondre sa feuille de route aux besoins croissants des clients dans le domaine de la recherche et du développement de technologies d'intelligence artificielle. Avec l'appui des expériences acquises et ses potentiels techniques, la société fournit divers produits aux organisations et entreprises. Le groupe de production fournit par exemple les scanners biométriques, l'authentification portable et les logiciels d'identification, etc. En général, les produits de la société Qadir sont classés en deux groupes, le matériel et les logiciels. Les produits matériels de cette société comprennent tous les types de systèmes de présence, de contrôle de sécurité et le trafic, l'authentification ainsi que le système de contrôle de la santé de l'environnement de l'organisation. Les thermomètres numériques et les appareils de désinfection sont considérés comme des outils produits dans cette société. Le thermomètre numérique est complètement intelligent et l'un des outils les plus simples pour détecter la température corporelle des personnes. L'appareil intelligent de désinfection modèle TPG-101, produit par la société, est destiné à désinfecter les mains dans les lieux publics tels que les organisations, les aéroports, les gares, les écoles, les universités, les usines, les hôtels, les restaurants, les maisons et autres lieux publics. Combo Plus 300 est le scanner d'empreintes digitales et lecteur de cartes qui est l'un des produits de la société de conception et de traitement Qadir. Le dispositif garantit la sécurité du code de la carte grâce à la présence d'un clavier. Il dispose d'une authentification à trois types, à savoir l'empreinte digitale, le lecteur de cartes et le clavier. Certaines autres caractéristiques de l'appareil sont la prise en charge de la signature biométrique, un écran couleur de 4,3 pouces, la détection de l'emplacement des empreintes digitales et la possibilité de lire et d'écrire sur une carte à puce. En outre, cette société a produit le scanner Combo Plus 300S qui dispose d'une authentification à trois types, à savoir la capacité de lire, d'écrire sur une carte à puce et de recevoir, de faire correspondre simultanément les empreintes digitales et de reconnaître l'emplacement des empreintes digitales. En plus d'avoir les fonctionnalités de l'appareil précédent, cet appareil a la capacité de comparer les deux signatures pour vérifier la validité de la signature reçue. Il a également la capacité de travailler sous la lumière directe du soleil.